RMC.
On va pas prendre tout le football français sur le dos, putain. Non, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassine. C'est toujours assassin, assassin, assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes ensemble donc jusqu'à minuit, depuis 21h, oui, en été, au mois de juillet, 3h d'after de 21h à minuit avec Damien Périnel, François Manardo et Stéphane Rosenbaum, notre spécialiste brésilien évidemment. Nous continuons de parler de cette victoire, ce sacre du Brésil en Copa América, c'était hier soir 3-1 face au Pérou. C'est le début de la prolongation entre le Ghana et la Tunisie, Timothée Mémon.
Et toujours ce score d'un but partout, le Ghana qui est reparti tambour battant, hein, vraiment boosté par cette égalisation in extremis dans le temps réglementaire de la rencontre. Les Tunisiens, eux, semblent forcément un petit peu abattus. Le Ghana qui s'est déjà procuré une bonne occasion dans la surface de réparation de Bouezassène, mais il y en a toujours un but partout entre le Ghana et la Tunisie. Coup franc à suivre en faveur des Ghanéens. 94e minute de jeu. On joue donc depuis 4 minutes dans la prolongation.
On va rester avec toi quand même pour ce coup franc, je le sens bien.
Avec la possibilité de mettre ce ballon à la surface de réparation, la déviation de la tête et la belle envolée de Mouezzassène, ouais. Surtout pour les photographes. Avec ce ballon bien capté, on en reste donc à un but partout entre les Aigles de Carthage et les Black Stars.
Oui, c'est passé un petit truc. Voilà, on a raison de rester en direct avec Timothée Mémon. C'est notre seul live de la soirée. Alors, cette équipe du Brésil, quand on regarde la composition en finale face au Pérou, elle a quand même énormément de gueule. Hein. C'est vrai qu'on parlait souvent de l'absence de Neymar, Becker. Il y a Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Sandro, Arthur Casemiro au milieu de terrain, Gabriel Jesus, Coutinho, Everton et devant Firmino. Forcément, cette équipe a de l'allure. Qu'avez-vous pensé du parcours du Brésil et de ce sacre, Damien ?
J'ai pu voir un peu plus attentivement 3 matchs. Donc celui du Pérou où il gagne 5-0 en poule, moi avec un gardien péruvien assez complice, hein, sur 2 buts, mais c'était surtout des buts sur coup de pied arrêté. Donc bon, passons, mais surtout révélation contre l'Argentine. Et là, contre l'Argentine, j'ai tout de suite vu la différence entre les deux sélections, à savoir que du côté argentin, peut-être 3 attaquants, ils jouent dans un 4-3-3 argentin, 3 attaquants qui reviennent en trottinant.
Ouais.
Ça court pas. C'est le problème, quand on a un et qui s'appelle Messi, tu peux te permettre, mais si t'as Agüero qui le fait, Messi est le troisième, ça devient compliqué pour défendre. Mais en revanche, quand tu vois les attitudes aux pertes de ballon des Brésiliens, mais objectif des attaquants, c'est sprint tout de suite sur le porteur, sinon on se replace, on laisse le ballon devant nous, compliqué après de les passer. Et en plus de ça, avec un Thiago Silva en feu, parce que c'est vrai, on met le point sur Dani Alves, on est un peu surpris de la performance de Dani Alves sur cette compétition.
Meilleur joueur de la compétition.
Mais Thiago Silva, elle monstro pour de bon, mais surtout elle monstro avec le ballon aussi, parce que comment il arrive toujours à casser des lignes, à faire repartir son équipe, là c'est le Thiago Silva qu'on adore. Donc vraiment beaucoup de cohérence. Et un collectif développé au sein de cette équipe.
Beaucoup de cohérence, François, c'est ton avis aussi ?
Moi, j'extrapolerai sur le niveau de cette Copa América, qu'en revanche, j'ai pas trouvé flamboyant. On parle quand même du deuxième meilleur foot au monde après le foot européen, en tout cas sur le papier. Mais depuis quelques temps, parce que la Copa América, il s'est disputé aussi un équivalent qui était la Copa Centenario, il y a quelques temps, qui regroupait aux États-Unis, qui regroupait les Sud-Américains. Et je suis resté. J'ai pas vu tous les matchs. C'était pas possible. Coupe du monde féminine, Coupe d'Afrique des Nations, l'Euro de l'espoir.
Et les matchs à 2h30 du matin aussi.
Mais je suis resté un peu sur ma faim. J'ai trouvé en général beaucoup d'équipes qui étaient dans la gestion. Je trouvais que le jeu était pas toujours très rapide. Alors l'autre explication que je me fais, c'est que compétition comme ça, en fin de saison, quand la plupart des joueurs dans cette Copa América évoluent en Europe, et comme chacun le sait, je vais le rappeler, c'est que le calendrier européen, quand il est aménagé pour le championnat d'Europe des Nations, il n'est pas aménagé pour la Coupe d'Afrique des Nations, ni pour la Copa América. Donc, les Sud-Américains, quand ils arrivent pour une compétition qui leur tient terriblement à cœur, hein, c'est très important pour eux, la Copa América, évidemment, ils ont pour beaucoup d'entre eux une grosse saison européenne dans les jambes. Je pense que ça explique aussi le déficit qualitatif.
Après, ça reste un peu dans leur ADN, hein, dans, au foot, du foot sud-américain, à savoir pas trop de rythme. Ça joue un peu à
l'accélération.
Voilà, ça fait du changement de rythme. Et c'est là où on voit que le Brésil, quand on dit que le Brésil a été cohérent, le Brésil n'a pas été génial. Le Brésil a juste été sérieux. Et sur les 2-3 coups où, en revanche, là, ils décident d'accélérer, de changer de rythme, ah, tout de suite, ils prennent par surprise.
Ils n'ont pas vraiment été emmerdés, en fait. Moi, c'est ça. J'ai pas vu une sélection.
Ils ont été au-dessus.
Même si le match contre l'Argentine, il y a des faits de jeu, bon, qui vont vraiment pas, Stéphane, si tu peux nous en parler. Enfin, te donner ton avis, qui vont vraiment pas en faveur des Argentins, qui
on en parlera après avec ce clash de Lionel Messi.
Sur la forme, ouais. Ok, mais sur le fond, il y a eu des situations où les Argentins auraient dû bénéficier.
Je vous coupe deux petites secondes pour une breaking news, car nous avons parlé durant une heure de Neymar qui ne s'est pas présenté à l'entraînement ce matin et le Paris Saint-Germain qui a donc fait ce communiqué. Sachez que demain va sortir une interview dans Le Parisien, aujourd'hui en France, de Leonardo. Première interview de Leonardo qui déclare Neymar peut quitter le Paris Saint-Germain. Voilà ce qu'il déclare et je vais vous lire les bonnes feuilles dans quelques instants. On en parle dans une vingtaine de minutes de cette interview donc de Leonardo qui annonce que Neymar peut quitter le Paris Saint-Germain.
Peut quitter. Il y a deux significations. C'est soit peut quitter, c'est-à-dire ok, allez, vas-y, casse-toi, la porte est ouverte, ou bien peut. Ben en fait, c'est une probabilité qui s'impose à nous.
Neymar peut quitter le PSG s'il y a une offre qui convient à tout le monde, mais à ce jour, on ne sait ni si quelqu'un veut l'acheter ni à quel prix. Tout ne se fait pas en un jour, c'est sûr. Voilà.
Bon, enfin, en tout cas, la porte, elle est plus qu'ouverte, là.
Ouais.
Elle est. Voilà. Elle est cassée.
Exactement. Bah, justement, poursuivons le fil de Neymar. Neymar, le Brésilien, qui n'a donc pas joué cette Copa América. Je lisais quelques déclarations via l'AFP, recueillait des propos de Brésiliens qui disaient tant mieux, on a une équipe, on n'a pas besoin de Neymar et tout ça. Est-ce que c'est le sentiment général au Brésil ou ce ne sont juste que quelques supporters qui partagent cet avis ?
Non, aujourd'hui c'est le sentiment général. Si on regarde une émission de foot au Brésil aujourd'hui, on voit que des présentateurs qui détruisent Neymar sur tous les points. Le problème c'est que pour moi il y a un grand gap, je sais pas si on dit ça un gap.
Un écart
entre les statistiques que Neymar peut avoir dans le championnat français en sélection. D'ailleurs, quand Neymar était là, la sélection avait une réussite de 65%. Quand il était pas là avant la Copa América, c'était 35%. Donc la sélection gagne plus facilement quand il est là, mais il y a tellement d'affaires en dehors du football qu'on finit par oublier un peu ça. Alors pour moi, c'est aussi une preuve que Neymar est un joueur au-dessus de la moyenne. C'est vraiment un crack parce qu'il fait tellement de bêtises que malgré ça, il est toujours incontournable à la sélection brésilienne. Malgré ça, on sait qu'il va revenir. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est comment Tite va de nouveau le remettre dans cette sélection, où il va le placer, est-ce qu'il va changer Coutinho de place, aujourd'hui, on sait qu'il va revenir. C'est ça la grande question au Brésil.
Est-ce que la blessure de Neymar au début de cette compétition a enlevé une épine du pied de Tite?
Ah oui, mais c'était vraiment une aubaine. Alors si on me dit est-ce que la sélection doit se passer de Neymar, moi je dis non, c'est vraiment un joueur au-dessus, mais vraiment du lot.
Je pense que Tite il dit la même chose, hein.
Et il dit exactement la même chose.
Pourquoi tu parles d'aubaine?
Parce que pour
les affaires la situation,
c'est-à-dire que aujourd'hui Tite il dit exactement ça, il dit Neymar il est essentiel pour la sélection, mais il n'est pas il peut être remplacé.
Il n'est pas irremplaçable.
Mais pour moi, pour cette Copa América, c'était le moment pour Tite de montrer qu'il n'y a pas une dépendance Neymar dépendance.
Oui, mais ça s'est imposé à lui, Stéphane. Je te coupe la parole, mais ça s'est imposé à lui parce que la blessure contre le Qatar en amical, ouais, c'est oui. Tite, il n'a pas pu se dire ah ouais cool. Ça m'enlève une épine du pied parce que il a des casseroles au cul, qu'il est difficilement gérable.
Mais c'est culturel. Au Brésil, si on regarde même dans le passé, c'est très difficile d'un entraîneur dire je vais laisser le meilleur joueur brésilien en activité aujourd'hui en dehors de cette équipe. Ça se passe en France quand il y a des affaires. Deschamps dit pour mon groupe je veux pas Benzema. Au Brésil, c'est impossible. Et encore, il faut savoir aussi que culturellement au Brésil, même entre les joueurs, tout le monde parle du bien de Neymar. Mais on peut être sûr que dans quelques années, il y aura des grandes affaires qui vont sortir, des gens qui vont parler. Que,
des grandes affaires dans qui vont sortir, c'est-à-dire que tu penses que, qu'il y a des,
je pense que
y a des dossiers quel... encore qui y restent.
Je pense qu'il y aura des dossiers en disant que finalement, Neymar, il n'était pas si aimé que ça de tous les joueurs dans le vestiaire. Je pense au Brésil, c'est quelque chose qui se passe beaucoup. Comme la société américaine où c'est très superficiel. Oh darling, yeah, ooh, yeah. Au Brésil, c'est un peu comme ça. On reste sur.
Non, mais c'est-à-dire que t'es accueilli à bras ouverts. Le problème, c'est qu'il les referme pas derrière toi. Les bras. Ouais. C'est un peu ça l'image.
Et moi, j'ai ce sentiment-là. Aujourd'hui, l'opinion publique est 100% contre Neymar. C'est un fait. Aujourd'hui, on parle de cette question de est-ce que Neymar va sortir. Après, c'est toute la question. Est-ce qu'un club va vouloir payer aujourd'hui ce que le PSG demande pour avoir Neymar?
Ça dépend si le club met des joueurs dans la... Parce que je vois pas un club, parce qu'on parle de quoi? On parle de 5-6 écuries européennes qui auraient la
surface... Ça y est, on revient sur ce dossier. J'aimerais qu'on l'attaque à 23h30, non. Qu'on reste sur le Brésil, qu'on parle de Neymar, le Brésilien.
Qui le fait remarquer. Non, mais Jean-Christophe, parce qu'il y a le prix du transfert, ok, mais je le vois pas quitter le Paris Saint-Germain sans avoir des joueurs en même temps dans la charrette.
Mais par rapport à la sélection, c'est une vérité. Neymar va revenir. Ça, tout le monde le sait. Il va revenir. Statistiquement, quand il est là, la sélection gagne.
On parle comme tu l'as dit. C'est un joueur hors norme à la base, quand même. Il fait partie des trois meilleurs. Ce sera un crime de le laisser. Il nous fait tellement plaisir quand on le voit sur le terrain, qu'il est dans un bon état d'esprit. Qu'une seule envie, c'est de le voir performer à chaque fois.
Voilà. Et on a parfois, pour moi, une fausse idée que c'est un joueur totalement personnel, pour perso. Pour moi, c'est une fausse idée. Quand on l'a vu jouer à Barça et qu'il jouait...
Non, bien sûr.
Et c'est un joueur intelligent qui arrive à jouer collectivement. Et au Brésil, souvent, quand on va le critiquer, c'est pour dire, voilà, sans lui, on a pu jouer collectivement. Et je pense que lui, quand il est en très, très haut niveau, le Brésil sait jouer collectivement avec lui aussi.
C'est pas la qualité du joueur qui est contestable ou qui est contesté, c'est que depuis deux saisons, non pas le joueur, mais l'homme, le jeune homme, s'est mis à l'envers par rapport à ce que doit être un professionnel. On en a parlé en début de l'émission. Même s'il n'a pas l'hygiène de vie aussi catastrophique que pouvait avoir un autre génie du football brésilien, pas si ancien, qui est Ronaldinho, mais... Il y a dans le comportement, et puis maintenant donc aussi par rapport à la justice, par rapport à une affaire où il est présumé innocent, mais une affaire grave sur le papier, c'est un joueur qui a multiplié les écarts. Et l'année dernière, avant que ce soit le côté extra sportif qui ressorte, c'était aussi ce joueur qui, au premier contact, en faisait trop, faisait 15 tonneaux, ce qui a profondément, non seulement agacé les Français, mais c'est passé au-delà des frontières.
Même les Brésiliens étaient agacés de ça, ils étaient énervés.
Sensiblement agacés.
Et on peut, François a parlé de Ronaldinho. Il y a une chose que Neymar n'a pas, c'est ce capital de sympathie qu'avait Ronaldinho.
Et un ballon d'or.
Et la Coupe du Monde surtout.
Non, mais on lui passait peut-être d'autres choses, alors que Neymar, depuis son jeune âge, est perçu comme le héros brésilien. Il est un peu moins héros brésilien aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont détachés? On a beaucoup parlé de ce jeune joueur Everton qui a crevé l'écran tout de même durant cette Copa América. Il y en a d'autres? Qui sont les héros brésiliens là, de cette Copa América?
Pour moi, il y en a surtout, je pense que Gabriel Jesus, qui a repris un peu, il en avait besoin. Gabriel Jesus, un peu de confiance pour revenir à son meilleur niveau.
C'est vrai que sa dernière Coupe du Monde laissait à désirer. Il était déjà attendu au tournant.
Alors même s'il a pris le carton rouge que moi, j'ai trouvé un peu
sévère.
Sévère.
Mais il jouait quand même pas. Il jouait plus en pointe, non?
Voilà,
la Coupe
exactement.
Du Monde.
Et il jouait comme exactement. Mais même en pointe au Palmeiras, c'est le club que je supporte au Brésil et qui il a. C'est un idole du Palmeiras. Il jouait beaucoup en pointe et sa vitesse, ses dribbles, comme pour le but du Brésil contre le Pérou quand il fait le dribble et il centre après. Voilà, c'est un et bien sûr Everton de Grêmio qui aussi a fait. Pour moi, c'était la grande surprise et il a eu beaucoup de chance. avec aussi Richarlison qui a eu les
dents de sagesse, non?
Non,
les
non,
oreillons.
Les oreillons, oui. Il a eu c'est aussi cette vision de cette modification qui s'est faite pendant la compétition, que finalement David Neres et Richarlison n'étaient pas là et il a pu gagner cet espace. Et une chose pour moi, pourquoi souvent le Brésilien n'aime pas trop regarder cette sélection, même si elle gagne? Parce que Tite a cette caractéristique, qui est la caractéristique, on parlait d'une équipe qui est très bonne en défense, qui est, quand elle perd le ballon, est très rapide, mais parfois en attaque, c'est une équipe avec le Corinthians où souvent ils gagnaient 2-1-0, un match de 1-0.
Oui, mais pour avoir connu le Corinthians, Stéphane, je te répondrai que pour avoir connu le Corinthians de Tite, qui est Libertadores et Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, c'était aussi une équipe qui avait beaucoup d'expérience, mais une moyenne d'âge assez élevée. Ouais. Elle pouvait pas mettre un rythme dingue dans les rencontres de haut niveau. Alors, je pense que Tite est dans sa philosophie. C'est vraiment pas ce qu'on peut qualifier, comme c'était le cas avec Dunga, d'un sélectionneur, d'un entraîneur qui entre guillemets défensif. Évidemment qu'il faut d'abord organiser ta défense et puis après tu passes au jeu offensif, en laissant un minimum de liberté à tes joueurs créatifs, donc sur l'aspect offensif. Mais Titi, non, je suis pas complètement d'accord. C'est un coach qui a aussi la conscience de bien jouer, de faire bien jouer. Il sait que de toute façon, quand tu entraînes la Seleção, tu as une obligation aussi de style avec celle des résultats, d'où la très grande difficulté. Après, il avait la matière première. Même sans Neymar, il avait la matière première.
Peut-être, mais en tout cas, la sélection brésilienne l'a maintenu à son poste après une Coupe du Monde que l'on peut dire ratée l'été dernier. Et c'est vrai que ça a permis aussi aux Brésiliens de remporter cette Copa América. J'aimerais qu'on avance sur le sujet du Brésil et que nous passions dans quelques instants au clash, car tu voulais parler, Stéphane, de l'arbitrage qui n'a pas servi les Argentins et qui a peut-être plutôt servi les Brésiliens. Mais il y a une passe d'armes entre Lionel Messi et les Brésiliens. Mais juste avant, nous allons repartir à la CAN pour cette prolongation entre le Ghana et la Tunisie. Timothée Mémon.
Un but partout, on est aussi au début de la seconde période des prolongations. Ce score d'un but partout qui n'évolue pas. La tension est montée d'un cran dans cette rencontre. On sent deux équipes qui ne savent pas trop si elles ont véritablement les moyens d'attaquer sans trop se découvrir et qui du coup se regardent un petit peu en chien de faïence. Toujours est-il que le score en reste à un but partout pour le moment après 107 minutes de jeu à Ismaïla entre le Ghana et la Tunisie.
Bon, prépare-toi en tout cas Timothée, si tu as une séance de tir au but, nous allons la suivre en direct et en intégralité dans l'after sur RMC. J'ai pas mal de choses à vous lire car c'est toutes les déclarations entre Lionel Messi et les Brésiliens, donc je vais prendre ma respiration. C'est un clash donc qui est né il y a quelques jours à l'issue du match pour la troisième place entre l'Argentine et le Chili. La star Lionel Messi a dit tout le bien qu'il pensait de l'arbitrage durant cette Copa América. Je cite: je dis toujours la vérité et je suis honnête. C'est ça qui me fait rester calme. Si c'est ce que je dis affecte et qu'il y a des répercussions, ce n'est pas de ma faute. Je pense que ce qui s'est passé est à cause de ce que j'ai dit. Nous ne devions pas faire partie de cette corruption, de ce manque de respect pour la coupe entière. Nous étions là pour plus. La corruption, les arbitres et tout ce qui ne me permet pas aux gens de participer au football, le spectacle, ça le gâche un peu. Il ne faut aucun doute que tout est fait pour le Brésil, que tout a été fait pour le Brésil. J'espère que le VAR et l'arbitre n'influenceront pas la finale et que le Pérou pourra concourir normalement. Évidemment, tollé après cette déclaration de Lionel Messi, qui ne critique pas uniquement l'arbitrage, il parle de corruption. Et voici la déclaration du sélectionneur brésilien, que tu dis merveilleusement bien, Stéphane Rosenbaum, qui s'appelle
Tite.
Voici sa déclaration. Celui que j'ai qualifié de joueur extraordinaire, d'extraterrestre, dit avoir un peu plus de respect, doit avoir un peu plus de respect et doit comprendre et accepter quand il est battu. Nous aussi, nous avons été défavorisés durant une série de matchs, donc il faut faire très attention. Je lui réponds directement, nous avons été propres contre l'Argentine, son expulsion a été injuste face au Chili, il ne le méritait pas. Nous aussi, on a dû composer avec l'arbitrage, on a marqué un but valable contre le Venezuela. Hier soir, il n'y avait pas pénalty sur la main de Thiago Silva, mais on fait avec calme, prudence et respect. Voilà pour la déclaration du sélectionneur. Thiago Silva maintenant. C'est difficile de commenter parce que parfois quand vous perdez, vous concentrez votre attention sur les autres. Je pense qu'il n'a pas fait, qu'il ne l'a pas fait par méchanceté, mais nous sommes tristes de ces déclarations parce que lors du 6-1 face au Barça, la prestation de l'arbitre a été ridicule de mon point de vue, mais nous n'avons fait aucune déclaration sur un arbitrage en faveur du Barça. Il faut respecter l'histoire. Nous avons 5 étoiles et aucune d'entre elles n'a été volée. Voici la dernière déclaration. Marquinhos, c'est dommage, cette déclaration qu'il a faite est frustrante, surtout pour le joueur qu'il est censé être, un joueur admiré par tous les joueurs contre et avec qui il joue. C'est une bonne personne, mais ses déclarations ont été malheureuses et nous, les joueurs brésiliens, on n'a pas aimé ça. Nous avons su perdre en Coupe du Monde face à la Belgique. Il y a aussi eu des erreurs d'arbitrage en sa faveur avec Barcelone et peut-être avec sa sélection, mais je n'ai pas entendu parler de corruption à ce moment-là. Quel est votre regard sur ces déclarations et cette passe d'armes entre Lionel Messi et les Brésiliens?
Moi, Stéphane. Vas-y Stéphane.
Non, moi je pense qu'il a complètement exagéré et je pense qu'il va être sévèrement puni. Parce que c'est
par la Comembol.
C'est assez quand même un peu trop... On peut être énervé et on peut dire, j'en parlais en dehors de l'antenne, au Brésil, souvent on appelle arbitro casero, arbitrage in casero.
Ouais, arbitrage à la maison.
Voilà, et ça arrive avec le. En plus, c'est quelque chose qui arrive, même la pression du public, etc. Et sur 2 secondes, on prend une décision qui va à l'encontre de son propre équipe. Parler de corruption,
c'est autre chose.
C'est autre chose. Il faut avoir des preuves.
C'est une coupe achetée, quoi. En gros.
Voilà.
Quand on parle de corruption.
Il faut avoir les preuves. C'est ce que dit Stéphane.
Et on ne peut pas parler de corruption sans preuves. Et après, bien sûr, le clash, etc. Tout ça, ça va. C'est cette conversation, c'est se rappeler du 6-1, du PSG avec le Barça. C'est le foot a toujours. Et pour moi, c'est ce qui fait. Alors un peu moins en France, mais c'est ce qui fait vivre les émissions de foot au Brésil. Les émissions de foot au Brésil, on ne parle que de arbitrage. On ne parle pas d'autre chose. On passe 1h30 pour dire mais non, mais il y avait pénalty, mais non, il était en dehors de la surface, mais non, l'arbitre. On fait que ça.
Et on fait ça, non, aussi là, bien
c'est,
en France.
C'est quand même autre chose, dans une autre dimension. Par rapport aux déclarations de Messi que tu nous as lues, comme tu l'as dit Stéphane si bien, et moi je suis entièrement d'accord avec ça, que tu accuses un arbitrage maison. Ok, ça peut se voir à défaut de se vérifier. Mais parler de corruption. Là, il te faut des preuves. Parce que c'est une accusation. Et si tu n'as pas de preuves, oui, sans doute que la Comebol, en tout cas, elle peut le faire, c'est l'attaquer pour calomnie, diffamation.
Moi, je pensais qu'il n'y aurait plus jamais de problème avec la VAR. En fait, c'est ça qui est paradoxal. Il n'y a jamais
c'est un
eu.
C'est sujet. Là,
ouais, mais je veux dire, là, Messi critique l'arbitrage maison sur le carton rouge de Gabriel Jesus hier. Sur le deuxième jaune, je suis pas sûr que ce soit rouge in fine. Voilà, limite la finale était dans un excès inverse contre le Brésil. C'est ce que j'ai pu ressentir en regardant le match. Après, je pense que voilà, ses paroles ont dépensé sa pensée, dépassé sa pensée.
Mais c'est grave.
Et c'est grave, bien sûr. Mais
quand t'as quelqu'un qui dit, moi, je suis toujours honnête, je dis toujours la vérité. Ok, t'es honnête, tu dis la vérité. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis qu'il y a corruption. C'est pas. Tu penses que l'arbitrage a été en faveur du Brésil? Non, tu penses que c'est une bande de corrompus et que tu veux pas. Alors oui, évidemment, il va rajouter. Moi, je veux pas participer à ça. La deuxième chose, moi, que je retiens, quand t'as travaillé avec les Argentins, club ou sélection, je parle sous l'autorité de Stéphane, je peux vous garantir que c'est le football dans sa gestion le plus clivant en Amérique du Sud, le plus arrogant, celui qui manifeste le plus de morgue, avec lequel t'as le plus de difficultés à bosser. Je suis à peine surpris par la déclaration de Messi. Je suis quand même un peu surpris sur la forme, sur les mots employés, mais sur la réaction, quand ils perdent, c'est quand même une fois sur deux la faute des autres. Ils ont pas fait une Copa América brillante, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sortent de la phase de poule comme ça, in extremis, grâce aussi à une petite victoire contre le Qatar.
Ouais, et puis le match face au Venezuela aussi. Enfin bon, voilà, ça a été très compliqué.
Mais les Argentins, franchement, quand il s'agit de donner des leçons aux autres, c'est les premiers. Mais quand eux devraient regarder devant, balayer devant leur porte, là il y a personne. Il y a personne,
surtout par rapport au foot.
Sur les propos de Messi, ce qu'il dit, mais qu'il avance des preuves, parce que sinon il doit se taire.
Tu veux ajouter quelque chose, Damien, et puis nous allons passer sur un autre sujet.
Ouais, je voudrais cette petite photo quand même avec Bolsonaro qui prend la coupe au milieu de tout le monde. Moi, je vois bien Emmanuel Macron faire ça. Ce serait rigolo. Non, franchement, c'est comment ça a été perçu au Brésil. Enfin, nous, c'est assez surprenant.
C'est ici. Surprenant. C'est assez difficile parce que le Brésil est un pays qui est complètement partagé en deux par rapport à la politique. Et donc, il y a 50% du pays qui a dit c'est déplorable de voir ce président qui représente autant de choses mauvaises.
Tous ceux qui ont voté pour lui trouvent ça génial et
donc,
les autres
dont
moins.
Dont beaucoup de joueurs de foot parmi la sélection.
Exactement. C'est ce qui est aussi tiraille un petit peu.
Donc c'était aussi un peu ce clivage.
Ce qui m'étonne pas. Marquinhos aussi a un petit froid avec, non ?
Oui, il y a
Marquinhos ne lui a pas serré la main. Moi, quand je
il
vois.
Il s'est expliqué après en disant qu'il ne l'avait pas vu.
Quand je vois la vidéo, bon, Macron, on l'a vu tous l'année dernière, quand on est champion du monde, il s'invite dans le vestiaire. À un moment donné, dans le vestiaire aussi, c'est une vie différente. Damien le sait mieux que nous. C'est que. Quand tu t'invites 20 minutes, allez, une demi-heure, que t'es champion du monde dans le vestiaire, il y a eu aussi pour les joueurs le temps de le vivre entre eux avant que un ministre ou le président de la République rentre dans le vestiaire. Et puis il y avait pas que Macron, Poutine, la présidente croate aussi s'était invitée à la fête. Ok, je veux bien moi. En revanche, la pelouse, le jeu, ça c'est sacré. Comme le vestiaire, d'accord. Je suis en train de me contredire.
Oui, mais
le terrain, c'est l'espace des joueurs, c'est l'espace des sportifs.
Le lieu du spectacle.
Ouais, et on le voit hier avec le président de la FIFA quand il remet la coupe à Rapinoe, les championnes du monde américaines, avec la première secrétaire générale de la FIFA, Madame Samoura, il se dégage tout de suite. Lui, il revient et il pose au milieu des joueurs. Ça m'a emmerdé. Alors, il n'y a pas de question de démocratie. Il prend le droit de le faire parce que c'est le premier personnage au Brésil, ok, il le fait. Mais de l'autre côté, les joueurs brésiliens, eh bien, s'ils étaient contre le fait qu'ils s'invitent à faire la fête avec eux sur le terrain, j'insiste une nouvelle fois avec la Copa América, ils pouvaient peut-être aussi lui faire comprendre, parce que moi j'ai connu parfois dans les vestiaires des joueurs avec le président de la République dire « Non, 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 il rentre pas, il rentre pas », et le président de la République n'est pas rentré. C'était Sarkozy à l'époque. Eh ben, les joueurs auraient pu dire, non, mais vous êtes gentil, la présidence, c'est pas votre place, on vous attend dans le vestiaire. Ou bien, c'est pas votre place, vous dégagez.
Il n'y avait pas un politique en 2010 à Naïsna pour venir.
Non, non, mais je te parle d'avant de ça. Mais je te parle d'avant de ça. Donc, ils l'ont pas fait. Moi, ça me dérange pas. Ils ont voté pour lui, il vient, il s'invite sur le terrain. Eh ben, ils ont tous envie de faire la fête avec la Copa América. Un gars qui n'a aucun lien avec cette sélection parce qu'il a jamais été footeux aussi.
Mais j'ai presque l'impression qu'il ne s'invite pas sur le terrain. C'est presque aujourd'hui que le terrain est à lui. Et au Brésil, aujourd'hui, on a cette sensation que c'est un président à la limite de la démocratie.
Il a été élu démocratiquement.
Oui, mais c'est les choses qu'il fait, les choses qu'il dit, c'est un personnage grotesque. Et juste pour un exemple, il y a João Gilberto, c'est le père de la bossa nova qui est mort. Il a fait un commentaire en disant ah c'était quelqu'un de connu. Ah d'accord. C'est triste.
Voilà, j'ai fait mes condoléances. Basta cosi.
Voilà. Et il y a un personnage grotesque de la chanson brésilienne qui est un mec qui s'appelle MC Reas qui a tué sa copine parce qu'elle était tombée enceinte et qu'il voulait pas, il s'est suicidé. Bolsonaro a dit on a perdu un gars qui avait un don artistique merveilleux. Donc c'est un personnage grotesque au Brésil et
on va arrêter là sur le débat politico-sportif concernant le Brésil.
Juste un truc.
10 secondes.
Qu'on ne l'aime pas, qu'on déteste, OK, moi franchement, c'est pas ma tasse de thé, loin de là, Bolsonaro. Mais après il y a la liberté individuelle de dire OK, tu viens sur le terrain là, faire la fête avec nous ou tu viens pas. Ils ont accepté qu'ils viennent, c'est leur problème.
Après, dans l'euphorie, c'est compliqué, François.
Je
suis pas sûr que la plupart des joueurs brésiliens étaient d'accord sur ce groupe-là, la grande majorité. Donc c'est pour ça que je dis, peut-être que ça s'est imposé à eux.
23h29, on revient dans quelques instants. Tu n'as rien prévu ce soir, Stéphane
Anselmbaum. Non.
Parce que dans quelques instants, on va reparler de Neymar avec une interview de Leonardo dans Le Parisien à paraître demain, où il déclare « Neymar peut quitter le PSG ». Voilà les mots du directeur sportif du Paris Saint-Germain. Un coup d'œil sur cette CAN. C'est bientôt la fin et c'est bientôt les tirs au but, Timothée Mémont, entre le Ghana et la Tunisie.
Absolument, 118e minute de jeu, toujours un but partout entre le Ghana et la Tunisie. On s'oriente tout doucement vers une séance de prolongation parce qu'aucune des deux équipes ne semble vouloir jeter ses forces dans la bataille et surtout se découvrir au risque d'être coinché. Il reste donc une petite minute à jouer entre le Ghana et la Tunisie. Après cela, ce sera les tirs au but.
Oui, là on fait tourner le ballon gentiment et on attend cette séance effectivement et nous allons la suivre. En tout cas, Timothée Mémont avec toi en direct en intégralité sur RMC. Et puis nous allons donc parler des propos choc de Leonardo dans Le Parisien. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
23h33, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. L'after avec Damien Perrinel, avec François Manardo et Stéphane Rosenbaum, notre spécialiste brésilien. Dans quelques instants, nous allons évoquer le cas Neymar, encore et toujours, avec cette sortie, la première sortie du directeur sportif Leonardo, qui a réservé ses mots aux Parisiens aujourd'hui en France, et cette déclaration notamment où il dit que Neymar peut quitter le Paris Saint-Germain. Je vous lirai les principales déclarations, les propos de Leonardo dans quelques instants, mais nous allons filer à la canne car Alain Giresse a tenté un coup. Timothée Mémon
joue là comme Vendral pour Alain Giresse qui a sorti son gardien titulaire Mouezza Sen, le Niçois qui avait effectué une fort belle rencontre du reste, et il a fait rentrer Ben Mustapha, le second gardien, évidemment pour brouiller un petit peu les pistes, pour peut-être casser un peu la confiance des Ghanéens, en tout cas semer le doute dans leur tête. Attention à ce que ce ne soit pas contre productif, parce que Mouezza Sen a très très mal pris cette décision, a rejoint le bord du terrain. Il a voulu dans un premier temps rentrer directement au vestiaire, l'entraîneur des gardiens a insisté pour qu'il reste auprès du groupe sur la pelouse. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée, parce que il a fait une petite scène là, clairement. Mouezza Sen, il n'a pas digéré la décision de son entraîneur. Toujours est-il que c'est Ben Mustapha qui gardera les bois tunisiens pour cette séance de tir au but qui va débuter dans quelques instants, à mon avis, entre le choix des tireurs, les étirements des uns et des autres, les discussions diverses et variées.
Je peux faire
on a
un
quelques
peu de
petites minutes devant nous.
Ok, je vais faire un petit peu de Leonardo, mais juste cette observation pour l'instant. On va dire que sur ce match, Timothée Mémon, Alain Giresse, il n'a pas le mojo forcément. Il a sorti son attaquant pour faire rentrer un défenseur qui, une minute après, a marqué contre son camp. C'est bien ça ?
Oui et non. Parce que, effectivement, Bédoui est rentré, il a marqué contre son camp. L'entrée de Naïm Sliti a un petit peu désorganisé l'équipe. Et en même temps, quand il a fait rentrer Wahbi Khazri, c'est aussi ce qui a permis de donner un coup de détonateur et de permettre à la Tunisie, dans un premier temps, de passer devant avant le but contre son camp dont tu parlais. Oui. On va le voir de toute façon, comme souvent, c'est le métier, c'est le côté ingrat du métier de coach. Si le coaching est gagnant, on félicitera Ben Mustapha. S'il est perdant, on accablera Alain Giresse.
Exactement. Tu voulais ajouter, François ?
Non, parce que par rapport à ce que disait Timothée sur la rentrée de Khazri, c'est Khazri qui fait la déviation comme ça, un peu comme une talonnade aérienne pour le Tunisien qui déborde et qui centre au premier poteau pour le but, pour l'ouverture. Donc effectivement, la rentrée de Khazri a été
positive. Au-delà de ça, ça a été clairement le joueur le plus dangereux. Dès qu'il est rentré, il a débordé côté droit. C'est lui qui adresse un corner qui permet de mettre une tête sur la barre transversale. Il a décoché en prolongation une frappe surpuissante. Il fait une bonne rentrée. À croire que ce rôle de remplaçant lui conviendrait peut-être mieux dans cette équipe de Tunisie que celui de titulaire, parce qu'il avait fait un début de compétition vraiment mitigé.
C'est toujours difficile de savoir si c'est vraiment du coaching gagnant ou si c'est un petit peu perdant, et de ne pas l'avoir fait entrer dès le début à peut-être léser son équipe. Enfin bon, on va pas entamer ce débat maintenant. C'est une séance de tir au but. Ghana, Tunisie, vous allez la suivre dans quelques instants. Je vais vous faire un petit récap des événements concernant le cas Neymar et le Paris Saint-Germain. Non pas depuis 3 semaines, sinon je vais y passer 3 heures, mais depuis 4 heures maintenant. Il y a eu un communiqué du Paris Saint-Germain. La reprise, c'était ce matin du PSG. Le communiqué est tombé en début de soirée et le Paris Saint-Germain s'est étonné de la non-venue de Neymar. Ce lundi 8 juillet, Neymar Junior était convoqué pour la reprise des activités du groupe professionnel du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a constaté que le joueur Neymar Junior ne s'était pas présenté à l'horaire et au lieu convenu. Le Paris Saint-Germain déplore cette situation et prendra les mesures appropriées qui en découlent. Et puis sachez que nous venons de voir que le Parisien aujourd'hui en France a interrogé Leonardo, le directeur sportif, pour sa première sortie en tant que de nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain. Et voici les mots du président du directeur sportif, lapsus, Leonardo. Quel est le problème entre le PSG et Neymar ? C'est la question des deux journalistes qui ont interrogé Leonardo, les deux journalistes Ronan Folgoas et Benoît Lallemand. Aujourd'hui, il n'était pas à la reprise de l'entraînement, il devait arriver, il n'est pas arrivé, mais il savait qu'il devait être là. On va étudier les mesures à prendre, comme on l'aurait fait pour tous les salariés, et nous allons le faire. Il a pris des engagements par rapport à son institut et un sponsor, mais ce n'était pas des dates prises en accord avec le club. Or, il a joué son dernier match le 6 juin, les vacances étaient jusqu'au 8 juillet, et là, il n'est pas venu. Voilà ce que dit Leonardo tout d'abord pour répondre aussi à ce communiqué et aux interrogations que l'on pouvait avoir, car Neymar Senior l'a confié à RMC Sport après le communiqué du Paris Saint-Germain, que le club était parfaitement au courant des intentions du joueur et qu'il savait très bien qu'il ne se présenterait pas le lundi 8 juillet. Et puis ensuite, à la question... Je vais la retrouver dans quelques instants. À la question, est-il vraiment possible que Neymar parte cet été ? Neymar peut quitter le PSG s'il y a une offre qui convient à tout le monde. Mais à ce jour, on ne sait ni si quelqu'un veut l'acheter, ni à quel prix. Tout ça ne se fait pas en un jour, c'est sûr. Le PSG veut compter sur des joueurs qui ont envie de rester et de construire quelque chose de grand. Nous n'avons pas besoin de joueurs qui feraient une faveur au club en restant ici. Voilà pour les propos de Neymar, de Leonardo sur Neymar. Je vous propose de les digérer quelques instants. Et cette séance de tir au but va débuter entre la Tunisie et le Ghana. Et on reparle de tout ça dans quelques instants. Timothée Mémon.
Absolument, le premier frappeur sera ghanéen. C'est Moubarak qui va se présenter face à Ben Moustapha. Ils sont face à face, les deux hommes. Ben Moustapha qui est rentré dans les derniers instants de la rencontre à la place d'Hassen. Moubarak qui s'élance. C'est parti, c'est touché par Ben Moustapha. Mais ça finit au fond des filets. Il s'en veut forcément, Ben Moustapha, parce qu'il a bien cru qu'il allait le sortir, ce ballon. Il l'a vraiment touché. Il n'a pas simplement effleuré, mais il n'a pas pu dévier suffisamment la trajectoire de cette balle, et le ballon finit au fond des filets. Ça fait donc 1-0 en faveur du Ghana, avec évidemment maintenant les Tunisiens qui vont devoir frapper à leur tour. Ben Moustapha, je vous le disais, le portier qui est rentré en cours de rencontre juste avant la fin de la rencontre à la place de Moïse Hassen. Alors cette fois c'est Naïm Sliti, le joueur de Dijon, qui va se présenter face à Richard Ofori. Sliti, c'est au fond, sous la barre, imparable, contre-pied et sous la barre. Naïm Sliti, ça fait un but partout, donc entre le Ghana et la Tunisie. Naïm Sliti qui n'a pas tremblé face au portier de Maritzbourg, qui évolue dans le championnat sud-africain, le portier ghanéen Euphorie, qui n'a donc pas pu toucher cette balle, qui était même très très loin de pouvoir la sortir. Nouvelle possibilité donc pour les Ghanéens de prendre l'avantage, avec cette fois pour frapper ce ballon. Difficile de déterminer le numéro de maillot. Il me semble que c'est Jordan Ayew, absolument. Jordan Ayew qui va venir se présenter face au portier d'Al-Shab en Arabie Saoudite. Ben Moustapha donc face à Jordan Ayew, qui évolue à Swansea, pour ceux qui auraient oublié et qui n'auraient pas suivi la trajectoire de l'ancien Marseillais. Il s'élance, Ayew, et c'est au fond. C'est au fond, pleine lucarne.
La prise d'élan est risquée, hein.
Oui.
Pardon ?
La prise d'élan était risquée.
Et là où il a mis le ballon, c'était risqué aussi, parce qu'il a vraiment visé la lucarne. Il y est parfaitement parvenu. Et Ben Moustapha reste assez loin du ballon. Ça fait donc 2-1. Mais les Tunisiens vont avoir l'occasion d'égaliser après ce but signé Jordan Ayew, qui est l'une des satisfactions de cette composition.
Wahbi Khazri.
L'homme qui tire les pénaltys avec la S Saint-Etienne. Wahbi Khazri qui partage la tâche avec Rémi Cabella d'ailleurs, qui va s'élancer et se présenter face à Richard Ofori. Wahbi Khazri à la concentration, attention à monsieur Victor Gomez qui demande au portier de garder les pieds sur sa ligne. Richard Ofori va s'exécuter. Wahbi Khazri, la prise d'élan, et c'est au fond, 2-1. Pour le moment, c'est du 100% de part et d'autre, et des pénaltys qui sont bien tirés, hein, jusqu'à présent.
Exactement, très bien tirés. Je vous rappelle les quarts de finale de cette CAN à suivre mercredi et jeudi sur RMC. Ça va débuter mercredi à 18h par Sénégal-Bénin, à 21h Nigeria-Afrique du Sud, le lendemain, le jeudi, Algérie-Côte d'Ivoire à 18h et à 21h Madagascar, soit face au Ghana, soit face à la Tunisie. Vous suivez la séance de tir au but dans l'after, Timothée Mémon.
Et cette fois, c'est le numéro 13 ghanéen qui va prendre la responsabilité de tenter sa chance. C'est Caleb Ekouban qui est rentré en cours de rencontre. Caleb Ekouban qui va donc se présenter face à Ben Moustapha. Les deux équipes évidemment dans le rond central qui prient la course d'élan. C'est parti et c'est sorti par Ben Moustapha. Le premier raté de cette rencontre. Il est signé Ekouba, ou plutôt le très bon arrêt de Ben Moustapha, qui est parti du bon bon côté, pas forcément extrêmement bien frappé. Pour le coup, on louait la qualité des tireurs depuis le début de cette séance. Ce cinquième tir au but n'est pas très bien tiré. On en reste donc à 2-2 avec la possibilité pour les Aigles de Carthage de prendre l'avantage. Et qui pour venir frapper ce pénalty? Alors qu'on voit quand même que Mouez Hassen, beau joueur, a décidé d'applaudir tout de même l'arrêt de son concurrent rentré à sa place dans les derniers instants de la rencontre, l'arrêt de Ben Mustapha. Et donc du côté des Tunisiens pour frapper, j'ai pas vu qui était, quel était le numéro de maillot du frappeur. J'ai du mal à le discerner.
Je crois que c'est Brown, non? C'est le défenseur central.
Il y aura une prise d'élan assez longue en tout cas, avec le ballon qui finit sous la barre. Et c'est un but inscrit par le numéro 3 qui est rentré tout à l'heure en cours de rencontre également, toute fin d'ailleurs de prolongation. Il s'agit de, me semble, c'est pas
non, c'est Brown.
Mais c'est Brown,
c'est Brown, c'est Brown, c'est Brown, c'est Brown, autant pour moi, effectivement, qui était titulaire depuis le début. Ça fait donc 3-2 en faveur des joueurs d'Alain Giresse. Et forcément, avec ce raté d'Ekouban sur la troisième tentative ghanéenne, eh bien, il n'y a plus vraiment droit à l'erreur pour les Black Stars. Alors, pour frapper ce pénalty cette fois, c'est Aben Yehounou, c'est au fond. C'est au fond, face à Ben Mustapha, c'est au fond, c'est frappé en force. Et ça finit sous la barre transversale de Ben Mustapha. Ils reviennent à 3-2, les joueurs ghanéens. Mais on rappelle que, eh bien, il y a encore un pénalty d'avance pour les Tunisiens, avec évidemment tout un peuple qui est présent. J'étais, comme tu le disais, Jean-Christophe, à la CAN pour le début de la compétition. J'y retournerai d'ailleurs sous peu d'ici la fin de la semaine. C'est alors que Yacine Meria va se présenter face à Richard Ofori. Ça fait partie, les Tunisiens, des rares nations à avoir déplacé en nombre des supporters qui mettent clairement de l'ambiance. Le joueur de l'Olympiakos pour la Tunisie face à Richard Ofori. La possibilité de mettre ce ballon au fond et de prendre un avantage déterminant. Meria, c'est au fond. C'est au fond. Il était pourtant parti du bon côté. Ofori qui s'agace, qui s'énerve, qui a senti qu'il était pas loin. Mais ça fait cette fois 4-3.
Exactement.
Et cette fois, ce cinquième pénalty aura forcément des airs de morsure.
Eh oui, c'est le money time. Maintenant, qui va se qualifier? Qui va être le dernier qualifié de ces huitièmes de finale? Le Ghana, la Tunisie. Pour l'instant, avantage Tunisie. Si le Ghana rate, la Tunisie affrontera Madagascar en quart de finale jeudi à 21h. Timothée Mémon.
Absolument, tu l'as dit, hein, ce sera Madagascar. Ensuite, il y aura une demi-finale face au Sénégal ou au Bénin. Donc, c'est, on va dire, la partie du tableau la plus ouverte, entre guillemets. Même si le tableau dans l'ensemble est ouvert. Alors cette fois, c'est Thomas, le joueur de l'Atlético Madrid, Thomas Partey, qui va se présenter face à Ben Mustapha. Il n'a pas le choix, il faut la mettre au fond, sinon, eh bien, le Ghana est éliminé. Il s'élance, c'est parti, c'est au fond, c'est au fond. Alors la balle de match, elle sera dans les pieds du prochain tireur, le tireur tunisien qui va se présenter, parce qu'il y a pour le moment égalité, 4-2, mais on le rappelle, un dernier tir à venir pour la Tunisie. On sent qu'il y a beaucoup de tension, hein, de part et d'autre, notamment dans les ronds centraux, là, avec les deux équipes qui sont présentes, qui sont massées. Certains joueurs sont à genoux, pris. Qui aura la responsabilité de ce dernier coup de pied arrêté côté
Sassi.
Tunisien? C'est Sassi, absolument.
Si Msakni n'était pas sorti, je pense que ce serait lui le dernier tireur.
Ouais, Msakni est sorti, absolument. C'est le joueur de Zamalek, je vous le disais, qui joue quasiment à domicile, parce qu'il joue dans l'un des plus grands clubs égyptiens, même si ce match a lieu à Ismaïla et que Zamalek est une équipe du Caire. Alors il va s'élancer, peut-être pour qualifier la Tunisie. Il s'élance, Sassi. Oh, c'est frappé tout doucement et c'est au fond, avec le portier qui a peut-être oublié de plonger parce qu'elle n'était pas forcément bien frappée, cette balle. Mais c'est la Tunisie qui rejoint les autres équipes en quart de finale de cette compétition. Les Tunisiens qualifiés sans briller, certes, mais qualifiés tout de même. Et Ben Mustapha qui exulte, forcément, le coup de coaching gagnant pour Alain Giresse. Là, voilà la réponse de Christophe, qui a fait rentrer Ben Mustapha dans les derniers instants des prolongations pour remplacer Mouez Hassen, peut-être pour semer le doute dans l'esprit ghanéen. Les images de tristesse de la part des joueurs du Ghana. La Tunisie rejoint donc Madagascar pour un quart de finale qui se jouera le 11 juillet au Caire.
Exactement. Jeudi prochain à 21h, à suivre en direct en intégralité sur RMC. Merci beaucoup Timothée Mémon pour ce commentaire de cette séance de tir au but, mais également pour toute la rencontre. Victoire donc après les tirs au but de la Tunisie. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite de l'after et nous allons donc évoquer cette interview de Leonardo. Neymar peut quitter le PSG. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
Encore ensemble durant une petite dizaine de minutes avec François Manardo, Damien Périnel et notre ami Stéphane Rosenbaum, spécialiste brésilien qui nous fait l'honneur de sa présence et qui est resté un petit peu plus longtemps que prévu car évidemment l'actualité se bouscule et nous avons de nouvelles révélations à vous faire sur Neymar et sur ses propos de Leonardo, le directeur sportif qui a donné une interview aux Parisiens et qui a donc déclaré que Neymar pouvait quitter le Paris Saint-Germain si évidemment il y avait une offre suffisante qui convenait à tout le monde et le Paris Saint-Germain qui veut compter sur des joueurs qui ont envie de rester et de construire quelque chose de grand. Nous n'avons pas besoin de joueurs qui feraient une faveur au club en restant ici. Tout est clair, non François?
Moi j'ai beaucoup la faim, parce que la faim est clairement là le basculement officialisé que moi j'attendais depuis maintenant pas mal de temps, et le Paris Saint-Germain se mettait un peu en scène de manière parfois grotesque. Et là, voilà, de dire, on n'a pas besoin de joueurs. Il ne dit pas seulement on n'a pas besoin de ce Neymar-là, mais on n'a pas besoin de joueurs qui voudraient calquer son comportement. C'est-à-dire, je vais prendre un très très gros salaire, et puis finalement, parce que ma réputation me précède, ben, je vais pouvoir être dans un club qui me laisse bénéficier de passe-droit.
Il ajoute autre chose. Il dit, je ne connais pas un club qui a gagné sur la durée avec un joueur plus fort que lui. Pour qu'un club puisse avancer, il doit avoir le contrôle sur tout, y compris sur ses joueurs les plus importants.
Oui, ça va dans ce sens-là. Ça va dans ce sens-là, mais ça fait du bien aux oreilles, quoi, de l'entendre.
Damien Périnel, ton regard.
C'est un peu ce qui se dit au sein de l'after depuis un bon moment. Toujours placer le club, l'institution avant le joueur. Il y a que comme ça que tu pourras avoir des résultats. Et peut-être que ce PSG nouveau sera un peu moins bling bling. Voilà, peut-être moins de stars, mais encore, je vais revenir sur l'interview d'Herrera quand il est arrivé. Il avait dit travail, professionnalisme et plaisir.
Et passion. Ouais.
Et passion, voilà. Donc, mais il a complètement résumé, en gros, en trois mots, les ambitions de ce nouveau PSG.
À la question Neymar, vous a-t-il exprimé clairement ses envies de départ? Leonardo a déclaré, c'est clair pour tout le monde, mais dans le foot, tu dis une chose aujourd'hui et demain une autre, c'est incroyable, mais c'est comme ça.
Ah ben, si c'est clair pour tout le monde, ça veut dire que en coulisses, il a fait, soit directement, soit il a fait passer le message que, pour lui, son avenir au Paris Saint-Germain s'écrit en pointillé.
Stéphane, ton avis?
On a une phrase qui dit au Brésil, « Non tem mais clima ». Il y a plus ce qu'il faut comme ambiance pour qu'il puisse continuer. Et il faut pas oublier, moi je pense qu'il faut un PSG moins nouveau riche. Et cette vision du nouveau riche qui l'argent est plus important que tout, plus important que l'histoire d'un club. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant, première année de fac, le premier gars qui m'a donné l'interview, c'était Juninho Pernambucano, et lui il m'a sorti une phrase. Il a dit tous les joueurs devraient avant tout apprendre l'histoire du club où ils vont jouer, apprendre la valeur du maillot où ils vont jouer. Et aujourd'hui, les joueurs stars que j'appelle nouveaux riches, bah finalement tout ça, ils ont l'impression, ils se sentent au-dessus de ce club-là. Et Neymar, c'est sûr, ils se sentent au-dessus du PSG.
Pas tous. Je pense pas qu'un Cristiano Ronaldo arrive à Turin en ayant une forme de non pas de mépris, ce serait exagéré, mais de Stéphane, de dédain par rapport à ce que représente la Juventus, par rapport à ce que représente ce maillot, et puis les autres joueurs aussi qui composent l'effectif. Tu as des attitudes chez certains joueurs, et je pense que Neymar en fait partie, de type qui, par rapport à un club français, un championnat qui est sous-coté, presque à juste, enfin pour moi à juste titre, eh ben, je vais prendre un maximum d'oseille, je vais penser au Ballon d'Or, donc une distinction individuelle. Et puis avec un peu de chance, on peut accrocher quelque chose au niveau de la Ligue des Champions, parce qu'il s'est engagé pour combien d'années, Neymar? Je pense que c'était 4 ou 5 ans.
Oui, il y a encore 4 ou 5 ans.
Sur 4 ou 5 ans, tu sais pertinemment que quelle que soit la qualité de l'effectif, la qualité du manager, tu peux pas faire dernier carré à chaque fois. Tu peux pas. Donc, qu'est-ce qui te reste? Il te reste la Ligue 1, les coupes nationales. Un joueur du calibre de Neymar, je pense que, vu l'histoire de la Ligue 1 sur la scène internationale, ça l'intéresse pas d'être champion de France chaque année. Ça l'intéresse pas. Tu viens pour la Ligue des Champions et ton ballon d'or. Bon, ben, tu t'es planté, tu t'es vautré. Mais et c'est puis, ça, tu as une grande part de responsabilité. Une grande part de responsabilité avec le club, évidemment. D'où le message de Leonardo que tu nous lis. Mais tu as une grande part de responsabilité dans ce double échec. Et parce que pour le coup, pardon, ça a été un mariage. Je pense que on peut parler au passé. Maintenant, on va commencer cet été, je le sens. Mais ça a été un mariage perdant-perdant.
On peut critiquer l'attitude du PSG jusqu'à présent sur la gestion des caisses semblables à ceux de Neymar. Mais à l'époque, quand Neymar faisait un caprice à Barcelone, il ressortait du bureau avec une augmentation, à chaque fois. Donc, Barcelone, qui est une très forte institution pourtant, Neymar avait toujours réussi à faire fléchir les dirigeants. Là, quand même, Leonardo, il a l'air d'être assez sérieux. En gros, c'est soit tu t'impliques ou soit tu dégages.
Et j'ajoute que Leonardo, et après je vais te redonner la parole Stéphane, dit qu'il n'a pas reçu d'offre encore concernant Neymar, qu'il a eu des contacts très superficiels et il avoue que c'est avec le FC Barcelone. Mais pour l'instant, des contacts très superficiels et pas d'offre donc de Barcelone pour Neymar. Oui Stéphane.
Moi ce que je voulais dire justement, c'est attitude de nouveau riche. Cristiano Ronaldo n'a pas. Mais je sais pas si on dit ça en France, l'attitude de nouveau riche.
Oui.
Au Brésil, l'attitude de nouveau riche, c'est ça. C'est avant tout l'argent. On pense qu'à l'argent. Je voulais demander à Damien. Pour moi et jusqu'à certains joueurs qui étaient mes idoles justement, ça reste une importance pour un joueur de football, d'après moi, de devenir un jour l'idole d'un club.
Bien sûr.
L'idole d'un club, c'est
aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est compliqué. Bien sûr que la part financière. Aujourd'hui ça régit tout, mais cela n'empêche que t'as des joueurs qui sont ultra professionnels et qui bossent pour le prix où tu les payes, je veux dire, au bout d'un moment. Un Zlatan qui certes avait un ego surdimensionné, au PSG il a fait le boulot partout où il est passé, bien qu'il soit payé des millions.
Bon, voilà en tout cas ce que l'on pouvait vous dire sur le cas Neymar aujourd'hui. Nous allons y revenir demain dans l'after. Écoutez-nous à partir de 21h jusqu'à minuit. Je serai avec François Manardo, avec Pierre Ducrot. Merci beaucoup Stéphane.
Merci.
Rosenborg,
obrigado. Muito obrigado, amigos.
Nous voir pour parler du Brésil. On se retrouve dans 2 ans ou dans 4 ans pour évidemment évoquer le Brésil. En tout cas, merci d'avoir été sur RMC dans l'after. Merci beaucoup François ce soir. Merci Damien. À bientôt les copains. Nous, on se retrouve demain à partir de 21h pour l'after de nouveau. Et je vous rappelle cette autre information de la soirée. La Tunisie s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN.
Ça, c'est bon, ça.
En battant le Ghana au tir au but. Ce sera donc Tunisie-Madagascar jeudi à 21h. Les autres quarts de finale. Algérie-Côte d'Ivoire, Nigeria-Afrique du Sud et Sénégal-Bénin. On vous souhaite une très belle nuit et à demain. Salut.
Salut.
RMC. L'after foot.